Bonjour. Dimanche, nous saurons quels sont les deux candidats ou candidates qui s'affronteront lors du second tour de l'élection présidentielle. Ce scrutin clôt une campagne qui, pour beaucoup, aura été décevante. Décevante pour deux absences, celle notamment d'un grand débat avec tous les candidats à la présidentielle, comme ça avait été le cas en 2017, et aussi l'absence remarquée du président sortant Emmanuel Macron, qui a refusé de descendre dans l'arène. Autre grand absent de la campagne également, le changement climatique, alors que l'État français a été condamné en 2021 pour inaction climatique, que le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, le GIEC, vient de publier cette semaine la troisième partie de son rapport, expliquant notamment qu'il reste à l'humanité 3 ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. La question climatique est passée largement au second plan lors de cette campagne. Alors, pourquoi tant de silence sur le climat? C'est ce qu'on va se demander aujourd'hui avec nos trois invités. Bonjour à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui. Paloma Moritz, vous êtes journaliste au Média Blast, où vous traitez des questions environnementales. Et vous avez animé avec le streamer politique Jean Massier le débat du siècle qui réunissait une partie des candidats à la présidentielle, un débat uniquement centré sur les questions climatiques, en tout cas sur le programme, sur les questions climatiques de la part de ces candidats. Cécile Duflo, vous avez été secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, pardon, député également, ministre du Logement sous François Hollande, et vous êtes depuis 2018 la directrice de l'ONG Oxfam, qui combat notamment les inégalités. Oxfam qui fait partie avec 5 autres ONG d'un groupement appelé l'Affaire du siècle, organisation qui a poursuivi en 2019 l'État français donc pour inaction climatique, ce qui a conduit, comme je l'ai dit, à sa condamnation en 2021. Et enfin, Yamina Saeb, vous êtes spécialiste des politiques énergétiques et vous êtes autrice au GIEC et une notamment des principales autrices du dernier rapport qui vient d'être publié lundi dernier. Alors, l'affaire du siècle que je viens de présenter publie chaque semaine depuis un petit moment pendant cette campagne un baromètre qui évalue le temps d'antenne accordé au sujet climatique dans les médias, et au mieux, la crise climatique ne représente que 5% des discussions. De notre côté, à Arrêt sur Image, Loris Guémard s'est également lancé dans un décompte. Il a regardé les chaînes d'infos et les JT pendant 36 heures de lundi à mardi. Bravo et merci à lui pour ce travail. Or, lundi, en fin de journée, a été publié le troisième volet du rapport du GIEC, dit rapport sur l'atténuation, qui propose des solutions pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Résultat, toutes les chaînes d'infos en ont parlé pendant moins de 2% de leur temps d'antenne. L'article est à retrouver en accès libre sur notre site. Ma première question est pour vous, Yamina Saeb. Le peu de temps consacré aux questions énergétiques, ça vous inspire quoi?
Que nos politiques sont inconscients. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la crise climatique. Et donc, avoir une élection présidentielle son débat sur la crise climatique, comment affronter la crise climatique, alors que cet été, on a vu que les effets du changement climatique sont chez nous, à Liège, en Allemagne, etc. Donc ça ne se produit plus très loin et il n'y a pas de temps d'antenne pour ce rapport. Et ce n'est pas juste le seul rapport, en fait. Le premier rapport est sorti en août. À ce moment-là, je me souviens, je ne fais pas partie du premier groupe, mais je suivais un petit peu les…
– Le premier groupe qui s'occupait, lui, de faire une synthèse de toutes les… de tous les travaux scientifiques sur le réchauffement climatique.
Voilà, c'est la physique du climat. Donc, c'est eux qui nous disent dans quel état est la planète et dans quel état elle pourrait être si on continue à émettre comme on fait aujourd'hui. Il est sorti en août. Il y avait eu le transfert d'un grand footballeur à ce moment-là au Paris Saint-Germain. C'était beaucoup plus important sur nos chaînes, voilà, sur nos chaînes de télévision que le rapport le plus attendu. Ça fait quand même, c'est 7 années de travail, ce rapport-là. Après, le deuxième rapport qui porte sur les risques climatiques et l'adaptation Commission est sortie le 28 février, bah, manque de peau, il y avait la crise ukrainienne. Bien sûr que la crise ukrainienne, c'est important qu'elle occupe l'actualité, mais il y a quand même, on se pose quand même des questions sur bah, le travail des journalistes qui ne mettent pas ça en première ligne. Et puis notre rapport sort ce lundi-là, le 4 avril, juste avant, une semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle. Il passe pratiquement à la trappe quand on regarde les grandes chaînes de télévision.
Alors, une petite précision pour vous qui nous regardez, pour préparer cette émission, on a contacté via leur direction des communications plusieurs des grands groupes médias audiovisuels français. On a contacté CNews, BFM, France TV et le groupe TF1 pour pouvoir avoir en plateau une personnalité de ces chaînes, un directeur de l'information, un responsable de l'information, un rédacteur en chef, pour venir justement discuter du traitement médiatique que font ces chaînes, et en l'occurrence de l'absence de la question climatique sur leur antenne. Aucune ne nous a répondu, à part TF1 qui nous a expliqué qu'il ne pourrait pas répondre à notre demande pour des raisons de timing, ce qu'on peut tout à fait entendre, mais le reste, ça a été silence complet. Alors, pendant cette présidentielle, on va commencer avec cette première séquence. Lors des interviews des candidats, la question climatique est souvent abordée, mais enfin d'émission, et pas tout le temps, par les journalistes eux-mêmes, comme on peut le voir.
On a le temps encore pour une question, c'est fini.
Compliqué. Bernard au standard, bonjour.
Le plus court possible.
Oui, bonjour.
Vous avez une minute ou 30 secondes, Bernard.
Très vite.
Allez-y.
Je commence par une très courte citation de René Lenoir, un ancien ministre de centre droit. Dans un monde fini, la croissance ne peut être infinie. Il écrivait ça en 1992. Comment, en 30 ans après, le candidat que vous êtes peut-il continuer à prôner la croissance alors que tous les indicateurs concernant le devenir de la planète sont au rouge?
Merci Bernard. Merci pour cette question.
Et on attend le rapport du GIEC aujourd'hui.
Voilà. Bonjour Aurore, vous avez 19 ans et Éric Zemmour vous écoute tout comme nous.
Bonjour Monsieur Zemmour. Alors moi je vais vous poser une question par rapport à l'écologie, puisque votre programme il est plutôt focalisé sur une vision de la grandeur, de la puissance de la nation, et ça laisse plutôt de côté la question de l'écologie, de la protection des milieux fragiles et de la pollution. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que vous êtes un climato-sceptique qui pense que l'écologie ça doit rester au second plan?
Maud au standard, Maud qui nous appelle de Bretagne je crois, bienvenue.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je vais d'abord juste rappeler qu'il y a le troisième volet du sixième rapport du GIEC qui est sorti hier. Et je voulais du coup poser la question à Madame Le Pen. En supposant que vous avez lu les résumés pour les décideurs, ce que je ne doute pas, est-ce que vous allez suivre les recommandations du GIEC qui sont sérieuses et qui demandent en fait... une chose toute simple, c'est la sobriété, la baisse de la demande en consommation d'énergie, de viande ou encore de l'usage de la voiture.
Et avec une unité de temps urgente, merci Maud pour cette question.
Alors, je précise que donc, ces extraits ont été tournés, enfin en tout cas diffusés les 4 et 5 avril, donc le jour même et le lendemain de l'apparition du troisième volet du sixième rapport du GIEC. Et donc on a... que des questions qui sont posées par les auditeurs. Ça dit quoi ça, Cécile Duflo? Enfin, qu'est-ce qui vous inspire ce procédé de que ce soit pas les journalistes qui prennent cette question-là dans leur bouche?
Alors, il y a deux choses. D'abord, je pense qu'un certain nombre de journalistes ne sont pas à l'aise avec ce sujet. Ils trouvent que c'est trop technique, trop compliqué. Ils pensent que ça n'intéresse pas les auditeurs, que ce n'est pas ça la priorité. Et puis, là, je fais appel à mon ancienne expérience, il y a un vrai truc avec les journalistes politiques, c'est que ce qu'ils cherchent, c'est la reprise, c'est-à-dire la dépêche AFP ou le fait que ce qu'ils vont faire dire à une personnalité politique va obliger les autres à réagir, etc. Et donc, ils ont le sentiment que sur les questions climat, je pense, ça porte moins à polémique. Parce qu'en fait, en vrai, si tout le monde regardait la réalité, les solutions, elles s'imposent un peu. Hein. C'est vraiment... Et du coup, je pense que ils n'ont pas envie. Je crois, pour avoir essayé... Parce que j'ai vraiment essayé de comprendre, pas rester au constat que vous avez montré de 3%, 4%, 5%, et pas avoir l'espèce de fossé considérable entre l'ampleur de l'enjeu et la réalité de la place que c'est accordé au débat. Donc j'ai essayé de trouver, et c'est des pistes de réflexion qui sont les miennes, mais ça n'empêche pas que parfois je suis un peu en rage quand même.
Ou pas le même Moritz qui est spécialisé. Ça fait combien de temps que vous êtes spécialisé vraiment sur cette question de la question environnementale ?
Sur cette question de l'écologie, ça fait longtemps que je travaille dessus, mais chez Blast, je travaille que sur ça, ça fait un an. Et après, avant, j'ai aussi couvert la Convention citoyenne pour le climat en tant que...
Vous êtes d'accord avec ce que dit Cécile Duflot ? C'est-à-dire que c'est... Est-ce que, bah, en fait, plutôt, est-ce que c'est vraiment particulièrement compliqué. En fait, moi, ça nous a fait beaucoup écho, par exemple, à la crise du Covid. On avait plein de journalistes qui, en fait, étaient complètement à côté de la plaque sur la question, sur les questions sanitaires, sur les questions d'infectiologie, etc. Est-ce que c'est un peu la même chose avec le climat ? Est-ce que c'est
Déjà, j'aimerais dire, en regardant ces extraits, heureusement que les citoyennes et les citoyens sont là pour mettre ce sujet au cœur du débat. Et ensuite, le deuxième volet du rapport d'IGEC dit très clairement que les médias traditionnels ont un rôle à jouer parce qu'ils nous permettent de comprendre mieux les enjeux climatiques, comment agir, etc. etc. Et donc, ils ont un rôle crucial à jouer, qu'ils ne jouent pas. Et même le GIEC le dit. Et en réalité, en fait, les journalistes aujourd'hui ont une nécessité à se former sur ces sujets. L'urgence écologique, elle irrigue absolument tous les sujets. Et donc, tous les journalistes devraient avoir une formation à minima sur ces sujets pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les traiter. Et c'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et donc, si on n'a pas ce changement de logiciel, à la fois au cœur du pouvoir et à la fois au cœur des médias, de dire, en fait, l'écologie n'est pas qu'une petite rubrique, mais c'est un sujet essentiel, c'est des nouvelles lunettes à adopter sur le monde pour pouvoir vraiment agir et pour nous assurer un avenir vivable, ce que dit le GIEC, eh bien tous les journalistes devraient être formés. Et donc là, ça c'est vraiment une faillite aujourd'hui des médias traditionnels de se dire que les journalistes ne connaissent pas ces sujets, donc comme vous le disiez, eh bien, du coup ils ne s'aventurent pas dessus, et comme les candidats aussi s'y connaissent très mal sur ces sujets, ils ne s'aventurent pas dessus, et donc personne n'en parle.
Yamina Saeb, vous, je ne sais pas si vous avez fait tant de plateaux que ça encore, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez, par contre je sais que vous avez répondu aux journalistes dans le cadre, puisque vous m'avez répondu en préparation de l'émission, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez remarqué, le manque de compétences en matière environnementale et écologique de la part des journalistes ?
Alors déjà, pour la sortie du rapport du GIEC, donc le GIEC en tant qu'organisme a été en contact, ils ont publié un appel pour que les journalistes s'inscrivent et qu'ils aient accès aux informations sous embargo suffisamment à l'avance. Il se trouve que notre rapport on a eu 5 heures de retard par rapport à l'heure prévue. Et donc on avait reçu, de par les bureaux du GIEC, on avait reçu une liste de contacts, de journaux, etc., dont par exemple, moi j'avais reçu TF1 par exemple. Et puis après, le 4, notre rapport n'est pas sorti à 11h, mais il est sorti à 17h, TF1 m'a dit qu'ils avaient d'autres priorités, et je ne sais pas par quoi ils ont remplacé le rapport du GIEC, mais en tout cas, le rapport du GIEC n'a pas fait la une. Alors après, pour répondre à votre question, effectivement, quand on parle, entre-temps, il y a beaucoup de journalistes qui m'ont contacté, bien sûr, et là, on se retrouve à faire un travail pédagogique, mais on part de zéro. Et c'est juste, et alors vous êtes auteur du GIEC ou autrice du GIEC, donc ça fait partie de votre travail de divulguer l'information, mais c'est juste que c'est une interview qui est prévue pour 15 minutes, facile, ça prend 45 minutes. Et après, quand vous lisez l'article en question, vous vous dites, mais comment j'ai pu transmettre ce message-là ? C'est pas ça que je voulais transmettre.
Par exemple, vous avez un exemple en tête, un peu précis, d'une
phrase ? Non, je peux pas citer. non, je peux pas, parce que vous allez très, très vite retrouver. Et là, donc après, vous vous retrouvez à envoyer des emails. Donc, on a fait le service après-vente. Nous a pris, d'abord, pour finaliser l'adoption de notre rapport, on a travaillé sans interruption pendant 40 heures le week-end dernier. Puis là, le service après-vente, on n'était pas du tout préparé à travailler jour et nuit pour faire du service après-vente, lire les articles où notre nom est cité, et renvoyer des emails pour dire s'il vous plaît, ici, il faut corriger, puis ça prend du temps. Oui. Parce que ça n'a pas. En fait, pour nous, c'est très important que l'information qui est divulguée soit une information correcte, mais ce n'est pas aussi important apparemment pour les journalistes.
Bah, moi, j'avais une question parce que du coup, moi, on a été mis en contact justement via la plateforme qu'avait mis en place le GIEC pour mettre en lien les auteurs et autrices du GIEC avec des journalistes. Est-ce que, par contre, vous avez, carte blanche, est-ce que vous êtes libre d'aller après dans les médias que vous voulez, ou est-ce que c'est la communication est assez bien...
Non, alors, jusqu'à l'heure de la fin de l'embargo, on devait suivre la liste, être en contact uniquement avec les journalistes qui ont signé pour l'embargo. D'accord. Après l'embargo, on a carte libre.
Ok, très bien.
Si je peux me permettre, sur cet enjeu-là, je pense qu'il y a vraiment aussi cette question de dire que sur la couverture médiatique des enjeux écologiques, il y a un problème quantitatif et il y a un problème qualitatif. C'est-à-dire que la plupart du temps, les journalistes ne vont pas remettre en contexte, par exemple, un événement type catastrophe naturelle, ou vont parler de douceur hivernale en disant que les Français vont acheter des glaces et que c'est merveilleux, etc. Et moi, à chaque fois que je me spécialise sur un sujet, que je prépare une vidéo, je lis plein d'articles et je vois énormément de bêtises. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que, du coup, ça nous permet de...
enfin, ça ne nous permet pas de bien comprendre les choses. On a vraiment l'impression, quand on regarde les chaînes d'information en continu, de vivre dans une réalité parallèle, en fait, quand on est conscient de ces enjeux-là. Et ça, c'est extrêmement alarmant. Et ensuite, dans le cadre d'une présidentielle, c'est encore plus alarmant parce qu'il y a énormément de candidats qui disent, en fait, qui donnent des fausses informations ou qui remettent mal en contexte les choses. Je pense ici à, c'était aussi le cas sur la matinale de France Inter, c'était un auditeur qui avait posé la question à Éric Zemmour en lui demandant, est-ce que vous savez ce que sont les gaz à effet de serre, enfin ce qu'est l'effet de serre, et est-ce que vous avez lu le rapport du GIEC? Et ce à quoi Éric Zemmour avait répondu, de toute façon, la France, c'est 1% des émissions, donc on ne va pas sacrifier l'industrie française sur l'autel du dérèglement climatique. Et à ce moment-là, zéro réponse des journalistes, aucune remise en contexte en disant écoutez Éric Zemmour, vous ne pouvez pas dire ça. Et il se trouve que moi, à ce moment-là, j'ai fait un thread Twitter pour débunker ce qu'avait dit Éric Zemmour et j'ai été harcelée par les zemmouristes qui n'étaient pas du tout contents que je montre en fait à quel point leur candidat n'est absolument pas au niveau sur cette question.
Justement, la séquence d'Éric Zemmour, alors parce que c'est justement un grand gimmick du candidat de Reconquête, que la France ne serait que responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre, on va en voir tout de suite un exemple.
Pour vous, l'objectif de neutralité carbone, il faut l'atteindre.
Écoutez, nous représentons 1% la France du CO2 produit mondialement.
On doit ou pas ?
Écoutez, franchement, que les Chinois et les Américains commencent.
D'accord.
Mais moi, je ne veux pas sacrifier mon industrie, le peu d'industrie qui nous reste, sur l'autel de neutralité carbone, alors que les grands pays ne le font pas. Que les grands pays le fassent. Vous savez, il faut arrêter d'embêter les Français. Vous savez qu'aujourd'hui, simplement un simple tanker qui apporte nos téléphones portables représente la pollution de 300 000 voitures. Donc, il y a des choses importantes à faire, mais peut-être que les autres peuvent le faire. Et peut-être qu'on peut changer le système de la mondialisation.
Alors, on a pas mal parlé en off pendant l'extrait, c'est pour ça que j'étais un peu pris de court. Bon, Cécile Duflo, qu'est-ce que vous avez à répondre là, par exemple,
à Éric Zemmour ? Moi, ça me rend dingue. Mais je vais dire les choses, parce qu'ici, on est dans un environnement, mais je pense que je suis plus une femme politique active, mais je tiendrai pas. Enfin, c'est tellement idiot. C'est-à-dire qu'en fait, on ne tolérerait pas qu'il explique des choses aussi bêtes sur à peu près 95% des autres sujets. Ce n'est pas l'industrie le problème en France. Le problème, c'est essentiellement les transports, l'agriculture et les bâtiments. C'est pas très compliqué quand même ce que je viens de dire, c'est basique. L'industrie, c'est le seul secteur où on tient nos obligations de l'accord de Paris. Le seul. Donc il dit vraiment des absurdités et il n'est absolument pas contredit, même pas un minimum. Et surtout, alors ce qui est intéressant quand même, si on écoute bien ces espèces de comparaisons, un tanker, c'est 300 000 voitures, etc., c'est qu'il y a vraiment eu un travail qui est très documenté, et depuis les années 80, du monde de l'énergie, notamment du monde pétrolier, pour fournir des espèces d'éléments clés de langage complètement absurdes, mais qui semblent marcher, qui ont l'air presque rationnel, et ça ressemble à ça. C'est-à-dire que, je pense que quand on écoutera ça et d'autres...
En fait, vous dites que quand on écoute Zemmour, en fait, on écoute les lobbies industriels,
on écoute vraiment de la bêtise. Je veux dire, cet extrait-là, il est sidérant de bêtise. Parler de « je vais défendre l'industrie », je le dis, ça n'est pas ça l'enjeu. Enfin, bref, et je trouve ça effectivement très dommage, comme le dit Paloma, qu'il n'est pas le début d'une contradiction. Voilà, c'est ça qui est problématique.
Moi, je pense qu'il faudrait inventer les propos climaticides, en fait. C'est ahurissant comme séquence. Et surtout, en fait, c'est ce qu'on appelle les discours de l'inaction. Il y en a beaucoup, mais ils sont extrêmement dangereux. Parce que Éric Zemmour, en fait, a énormément la parole dans les médias, a énormément la parole sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui peuvent se mettre à croire ce discours-là. Et en fait, il est débunkable très facilement. C'est-à-dire qu'en fait, la France, certes, c'est 1% des émissions mondiales, mais si on regarde, en fait, nos émissions cachées ou importées, et donc on parle de l'empreinte carbone de la France, donc de l'impact qu'on a aussi sur notre planète, les Français sont en moyenne à 9 tonnes de CO2 par an par habitant. La moyenne mondiale, elle est autour de 6. Ensuite, on a une responsabilité historique. En gros, la France fait partie des 12 plus gros pollueurs historiques si on prend les émissions cumulées depuis 1850. Et enfin, les effets du dérèglement climatique ne sont pas comme le nuage de Tchernobyl, ils ne vont pas s'arrêter à la frontière. Donc on vit en fait les impacts de ce dérèglement climatique et c'est très embêtant d'entendre Zemmour qui dit oui, on ne veut pas embêter embêter les Français. Mais en fait, les Français sont déjà embêtés par le dérèglement climatique. Il y a 100 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Il y a 5 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Les problèmes de malbouffe, les problèmes liés aux pesticides, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on vit très, très concrètement dans notre quotidien. Et donc, l'idée, c'est essayer d'atténuer ces effets du dérèglement climatique et aussi de s'adapter. Et lui ne propose absolument rien pour ça. Et tous les comparateurs de programmes montrent que son programme est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour juste vivre mieux, quoi.
Ce que je me demande, Yamina Saheb, c'est que Éric Zemmour, il dit que les Chinois commencent. Est-ce que ça, c'est des débats qu'il y a en interne? Est-ce qu'il y a des représentants des États? Il y a 195 États membres au GIEC. Il y a des représentants des États qui sont dans cette instance. Est-ce que, ben justement, il y a des débats là-dessus entre les pays? Est-ce que les pays qui sont moins pollueurs disent aux Chinois et aux Américains, bon, ben, commencez déjà et ensuite on verra, nous, ce qu'on fait?
Alors, le GIEC, les auteurs, ce sont des scientifiques. Donc, oui, les scientifiques, c'est basé sur la science, c'est basé sur les chiffres. Et puis, on évalue, on regarde, on a des méthodologies, etc. Donc, ce que les travaux du GIEC et les travaux… Le GIEC ne fait pas de la recherche. Le GIEC fait un résumé de l'état de la science. Donc, ce que la science nous dit, c'est que, justement, les émissions… quand on regarde juste les émissions territoriales, certains pays, aujourd'hui, comme la France, pourraient tenir le discours d'Éric Zemmour. Sauf que ce discours-là est complètement fallacieux, complètement faux, parce qu'il faut prendre en compte les émissions liées à la production des biens de consommation qu'on importe. Et puis aussi, on a une responsabilité historique. Après, le rapport du GIEC, justement, ce dernier rapport, montre justement la responsabilité historique de certains pays et montre que certains pays, le niveau de pollution, le niveau d'émissions dans certains pays est encore très, très, très bas. Et ce sont des pays qui sont des pays en développement. Donc, ils ont besoin d'un rattrapage, donc un rattrapage légitime d'un point de vue développement. Alors, ce rapport apporte aussi quelque chose, une nouveauté, c'est qu'il dit, ce qu'on entend là avec Zemmour et avec d'autres, que moi, je ne vais pas mettre mon industrie sous pression, etc. Mais en fait, ce rapport-là montre que le développement et la lutte contre les changements climatiques ne sont pas contradictoires. En fait, ce sont deux éléments qui se rejoignent, qui se complètent. Et donc, du coup, je ne sais pas quel type d'industrie il veut sauver, mais en tout cas, moi, je pense que sauver l'industrie polluante, on devrait y mettre fin et on ne pourra y mettre fin que par la loi. Et après, les autres industries qui vont émerger, ce sont des industries non polluantes qui vont servir à la fois à la lutte contre le changement climatique, mais également à un développement différent du développement que nous avons eu. Après, quand on arrive, le rapport du GIEC est assez spécifique parce que c'est un travail scientifique et puis après, on arrive le résumé pour décideurs. On passe avec les représentants des gouvernements, ligne par ligne, mais vraiment mot par mot. La partie dont j'étais responsable, mes deux dernières phrases ont été approuvées à 3h du matin, la nuit de samedi à dimanche.
C'était quoi votre partie, exactement ?
Comment ?
C'était quoi votre partie ?
Moi, j'étais principalement sur la partie bâtiment et après, j'ai travaillé sur les scénarios et les émissions passées, donc les émissions passées et futures. Et j'ai travaillé un peu sur les trade agreements, les accords commerciaux. Ils passent ligne par ligne. Après, les représentants des gouvernements…
Ils ont dit quoi sur vos lignes, par exemple ? C'était quoi les points qui étaient saillants sur les désaccords ?
Alors, ce qui aurait pu être saillant dans ma partie, c'est justement la partie sobriété. Alors, surprise, non seulement la partie sobriété est passée comme une lettre à la poste, mais en plus, ils nous ont demandé de la définir. Donc, pour la première fois, on a une définition internationale de la sobriété. Et ça, c'est juste, on n'en revient pas. Avec mes collègues, on n'en revient pas que… non seulement… Parce que ce qui se passe, c'est que quand on passe ligne par ligne, donc ils demandent en général de leur expliquer. C'est plus des explications qu'ils demandent aux auteurs parce que nous, on écrit comme des scientifiques et eux, ils travaillent pour des politiques, donc ce n'est pas tout à fait le même langage. Et après, si jamais il y a désaccord, donc les scientifiques expliquent. Par exemple, là, on a rajouté une définition. C'était pour expliquer ce que c'était la sobriété parce qu'ils nous ont dit que c'était un terme technique que beaucoup de pays n'avaient jamais entendu parler. Et donc, on explique en mettant une définition. Voilà, ce qui est très grave, mais bon. Alors du coup, on explique en apportant une définition, mais si jamais il y a des accords, il y a eu désaccord sur un schéma, il est supprimé. Il est supprimé du résumé pour décideurs, mais ça reste dans le rapport lui-même.
C'est quoi exactement la sobriété? Parce que là, ça aussi, on en a entendu beaucoup pendant En tout cas, quand le rapport du GIEC a été traité, on en a beaucoup entendu parler. Et c'est quoi la sobriété exactement?
Alors, la sobriété, ce sont toutes les mesures politiques qui permettent d'éviter, ou d'éviter au départ, la demande en énergie, en matériaux, en eau, en sol, tout en offrant à tout un chacun un niveau de vie décent dans le cadre des limites planétaires. Dans notre cas, c'est dans le cadre du budget carbone qui nous reste. Et donc, la sobriété, pendant longtemps, il y a beaucoup de gens qui créent de la confusion. Et je pense qu'il y a de la littérature qui montre aujourd'hui que les compagnies pétrolières, les compagnies des énergies fossiles ont beaucoup travaillé pour créer cette confusion-là et mettre le poids sur les individus. Donc pendant longtemps, on a toujours parlé du changement de comportement des individus. Or, la littérature montre, et on le sait, il y a suffisamment de preuves empiriques, que le changement de comportement des individus ne pourra se produire que si et seulement si on a déjà mis en place les mesures politiques nécessaires, les infrastructures nécessaire pour que le changement de comportement des individus se produise et qu'il dure.
Alors une bonne vous l'avez évalué aussi dans le rapport du GIEC, par ailleurs. Il s'évalue à combien? Parce que ça, c'est intéressant.
Alors, justement, quand on prend toutes les mesures, c'est la première fois qu'on a un chapitre sur la réduction de la demande, ça ne s'est jamais produit auparavant. Quand on prend toutes les demandes au niveau, la demande dans les différents services, ça varie entre 40 et 80%, 70%. Et 70%, ça comprend bien sûr la nourriture qui vient en premier, la mobilité, le bâtiment, et puis l'industrie vient en dernier. Donc, vous voyez, c'est, quand on part de la demande, en fait, l'industrie, c'est un secteur intermédiaire. L'industrie, on ne devrait même pas regarder ça comme un secteur précis, parce que ce qui fait l'industrie, c'est la demande qui fait l'industrie. Donc, vous avez l'industrie qui correspond à votre demande.
Il y a beaucoup de candidats pendant cette présidentielle qui, quand justement on leur parle de sobriété, ou en tout cas de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de limitation de la demande aussi, évoquent le fait que ces politiques écologiques risquent d'être punitives pour les Français.
C'est cette vision-là de l'écologie que j'ai, une écologie enracinée, une écologie qui ne soit pas punitive, une écologie où on ne soit pas en permanence en train de se flageller, mais plutôt se réjouir de nos succès.
Je serai le président qui dira non à l'écologie soupçonneuse et punitive. Je rétablirai les 90 km/h. Je plafonnerai les amendes et je supprimerai le permis à points.
Tout l'enjeu, mes amis, sera de décarboner la France sans tomber dans la décroissance. C'est possible. L'écologie est une valeur. L'écologie n'est pas une idéologie. C'est une solution. Ça n'est pas une punition.
Cécile Duflot.
On a progressé, en fait, parce que il se trouve
de tellement
oui,
de toute façon.
Non, mais il se trouve qu'il y avait déjà. D'abord, je trouve qu'il y a deux secteurs qui ont progressé. Je vous écoute, madame, et je suis admirative. Je trouve que le GIEC a fait un travail considérable. C'était un travail scientifique toujours aussi remarquable, mais en matière de on va dire de vulgarisation, de communication. Pendant très longtemps, les scientifiques étaient très réservés en disant « c'est pas à nous d'aller sur les plateaux ». Moi, je me souviens des moments où il y avait le débat sur la réalité du dérèglement climatique dans les années 2000. C'était encore dur, hein. C'était compliqué pour eux parce qu'ils voulaient mettre de la nuance, de la subtilité face à des bourrins. Et la candidate du Parti Les Républicains, donc l'héritière, on va dire, du RPR, il y a 20 ans ou il y a 15 ans, si elle avait fait campagne, elle aurait fait campagne comme Sarkozy. L'environnement, ça commence à bien faire. Les écologistes qui nous fatiguent. C'est-à-dire que maintenant, ils n'osent plus. C'est-à-dire que ce qui est très différent, c'est plus personne n'ose dire l'écologie, c'est n'importe quoi, on nous pipote, etc. Mais ils essayent de le rebrander, de le retransformer, de dire que c'est punitif, etc. Mais sauf que ce qui est particulier aussi, c'est que je crois, et Paloma Maurice l'a dit tout à l'heure, que les citoyens eux-mêmes ont évolué. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité. Le gel, c'était déjà l'année dernière où il n'y avait plus de fruits, il n'y aura peut-être plus de pruneaux cette année. C'est-à-dire que ce que les écologistes disaient, qui avait l'air pénible, parce que ça, il faut le comprendre. Et donc la question, je me disais, en regardant Zemmour tout à l'heure, je me disais qu'en fait, il faudrait le choper en lui disant, voilà, si on compte les émissions comme vous les comptez, je propose que l'intégralité du plateau se mette tout nu. Parce que tous les vêtements qu'ils portent, sans exception, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui sont rapportées au Bangladesh, en Chine, au mieux en Tunisie, au Portugal, pas en France. Donc ils se foutent à poil, comme ça il sera cohérent avec ces 1%. C'est-à-dire que je me dis, il faut peut-être qu'on trouve une autre façon de répondre. Parce que, en fait, peut-être que justement la gravité de ce qui est annoncé...
C'est comme Made in France, par ailleurs.
Franchement, il y a quasiment plus de... Non, parce qu'il n'est pas en jean. Je crois qu'il n'y a que 1083 maintenant qui arrivent. Il faudrait peut-être pas citer de marque, mais il y a très, très peu de production textile. On n'a quasiment plus de production textile. un peu de on va dire de tissus qui sont cousus en France, mais pas produits. Mais parce que c'est tellement inquiétant, en fait, c'est vrai qu'il peut y avoir une espèce de réaction de déni. C'est très humain, en fait, face à une réalité qui nous déplaît considérablement. On a un mécanisme psychologique de refus de l'obstacle et de déni. Mais c'est pas, on ne peut pas être un responsable politique et être dans le déni, ça ne peut pas marcher.
Il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que donc, vous avez, Paloma Moritz, co-animé avec Jean Massier le débat du siècle, qui a été diffusé sur Twitch, et sur YouTube. Vous en êtes, puisque ça a été organisé du coup avec l'affaire du siècle, donc vous êtes aussi dans l'organisation.
Ce que je veux dire juste, c'est qu'au départ, on voulait que ça existe. On voulait que ça existe et on a proposé à toutes les chaînes...
Ah bah c'est ma question. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été sur une grande chaîne?
En leur disant, écoutez, on voudrait... ça existait. Il y en a eu un en Grande-Bretagne et Boris Johnson n'était pas venu et il l'avait remplacé par une statue en glace qui a fondu pendant le temps du débat. Et on avait dit, voilà, est-ce que vous pourriez faire ça? On pense que là, il y a de la matière et qu'on était prêt à fournir de la doc, à faire de la formation des journalistes, etc. Mais on voulait que ce débat ait lieu, parce que quand même, le futur ou la future présidente, il a la condamnation sur les bras. L'échéance de l'affaire du siècle, c'est le 31 décembre 2022. Et si le préjudice écologique n'est pas réparé, et si l'inaction climatique n'est pas enrayée d'ici là, spoiler, ça ne va pas arriver, il y aura à nouveau un rendez-vous au tribunal. Et en fait, tout le monde nous a dit, bah non, clairement, enfin, ça ne nous intéresse pas, on ne fera pas là-dessus.
Mais pourquoi ils vous ont donné une justification un peu...
qui pensait que ce n'était pas au cœur du débat de cette présidentielle, que, c'était pas, que ça n'intéressait pas. Ça, oui, ça ne les intéressait pas. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, tant pis, on veut le faire quand même. Et on a noué ce partenariat avec Jean Massier, avec Paloma, pour leur permettre de l'organiser.
Paloma Moritz, ce qui m'intéresse aussi, c'est le dispositif. Parce que, en plus, vous vendez ça comme le débat du siècle. Bon, mais ils passent les uns après les autres pendant une demi-heure. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait une mêlée générale, comme en 2017, qui avait été quand même assez intéressante, notamment avec Philippe Poutou qui avait fait son show pendant le débat. Là, pourquoi vous avez fait juste vous deux, Jean Messier et vous, contre chaque candidat pendant une demi-heure?
Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai décidé du titre de l'émission. Enfin, moi, j'ai rejoint, en fait, en tant qu'animatrice un peu après. Donc, c'est vrai que ça a porté à confusion. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, vous avez dit débat du siècle, il n'y a pas de débat. En réalité, en fait, quand on parle des questions d'urgence écologique, ce sont des questions qui sont extrêmement complexes, comme on peut le voir là depuis le début. Parce que, en fait, parfois, de dire en fait, une fausse information ou une information erronée, ça prend deux secondes, mais la contredire derrière, ça prend énormément de temps. Et en réalité, on l'a vu avec le débat de 2017, justement, qu'est-ce qu'on retient les Français de ce débat? Ils ont retenu Philippe Poutou. Alors, c'est très bien, mais en termes de débat public, est-ce que vraiment c'est ce qui est le plus intéressant? Et donc, sur ces questions-là, on trouvait ça important de pouvoir vraiment questionner les candidats. Et encore, une demi-heure, c'est trop court, c'est beaucoup trop court, surtout face à des politiques qui savent aussi comment s'échapper, en quelque sorte. On voulait avoir le temps de pouvoir vraiment creuser avec les candidats et de façon très concrète, de leur dire à quoi nos vies vont ressembler dans 5 ans, si vous êtes président ou présidente. Et de pouvoir aussi montrer les incohérences de leur programme, etc. Quand on parle, par exemple, de l'écologie incitative de Valérie Pécresse qui parlait de la croissance, etc. Ça a été intéressant pendant le débat de voir la tête qu'elle a fait quand je lui ai parlé du rapport Meadows, donc qui est le rapport qui parle des limites à la croissance, donc qui dit qu'il ne peut pas y avoir...
C'est 1972.
Et qui dit qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini et qu'on n'est pour le moment pas capable de découpler la destruction de la planète avec la croissance, quoi, que la croissance est synonyme d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et quand je lui pose la question là-dessus, je vois sa tête quand je dis rapport Meadows. Et là, voilà, elle n'a jamais entendu parler de ce rapport et elle arrive à s'en sortir. Et en fait, c'est intéressant aussi de pouvoir mettre les candidats face à ça, parce que moi, mon espoir, c'est au-delà du fait que ce débat ait permis à certaines personnes de comprendre aussi mieux les programmes des candidats, etc. C'est aussi peut-être que les candidats se soient rendus compte à certaines questions et à certains moments. Ah oui, alors là, sur ça, je suis complètement à l'ouest et je n'y connais rien et peut-être qu'il faudrait que je me forme un peu.
Alors, et pourquoi à ce débat, il n'y avait pas Marine Le Pen ni Éric Zemmour? Alors, je sais que c'est un choix qui a été assumé. Parce que je crois qu'enfin, je sais qu'en plus, il y a un désaccord entre vous deux, au moins là-dessus.
D'accord, non, mais enfin, oui, bon.
Vous auriez préféré. Alors. Cécile Duflo, expliquez-nous.
Parce que, pour le coup, c'est un débat que nous avons organisé, qu'on a contribué à financer, notamment, et très clairement, nos ONG, et je sais que c'est un moment où tout le monde a le sentiment que tout vaut tout, c'est qu'à la fois, on considère que le débat sur la question climatique, il est prioritaire, mais on n'oublie pas le reste de leur programme. C'est-à-dire que, et y compris dans notre positionnement, aujourd'hui, nous, on n'a pas de travail de plaidoyer avec les députés du Rassemblement national, parce qu'on ne voit pas comment on ferait avancer les choses sur le plan climatique avec des gens qui vont avoir une attitude xénophobe et de violence à l'égard d'une partie de la population française. Donc l'idée, comme ce débat était centré sur les questions climatiques, c'est de ne pas être hémiplégique et de ne pas oublier l'intégralité de cette dimension. Mais c'est la même chose pour la Fondation Abbé Pierre, c'est la même chose pour d'autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et si ça avait été organisé par un média, logiquement, ils auraient, c'est les obligations qui leur incombent.
Par exemple, c'était l'occasion, parce qu'on regardait du coup Éric Zemmour avec son histoire des 1%, on disait que c'était tout à fait des bonnes câbles, etc. Ben là, c'était l'occasion de le mettre face à une journaliste, et deux journalistes en l'occurrence avec Jean Massier,
oui, mais qui auraient pu lui rentrer dans l'arbre. Tout n'est pas dans tout, en fait. Tout n'est pas dans tout. C'est-à-dire que, parce qu'il aurait pu aussi se faire valoir en expliquant ça, enfin, avec un ton comme il le fait. Et quand on a face à soi Éric Zemmour, je pense que c'est la globalité du projet qu'il faut, et notamment sa dimension qui est une dimension raciste, xénophobe, dangereuse. Et donc, je sais qu'on peut avoir, et d'ailleurs, on le voit dans la période, on est à 3 jours de l'élection présidentielle, pardon, mais je crois que le risque que l'extrême droite soit au deuxième tour est maintenant presque une probabilité, et qu'on considère ça comme quelque chose de banal ou prévisible, est un problème pour nos organisations. Donc comme nous étions comptables de cette organisation, c'était un choix, et c'est un choix que j'assume, de ne pas dire qu'en en fait on peut parler climat de manière neutre avec qui que ce soit.
Je voudrais revenir juste sur un point. Je remets la casquette.
Juste un mot, et que s'il y avait un candidat qui était exemplaire, parce qu'on pourrait imaginer le pire, un Zemmour, tout autant Zemmour, mais qui dirait oui, je suis d'accord sur tous les trucs climatiques, alors on dirait que c'est bien, et on oublierait ce point-là, et ça, c'est pas possible. Pardon, hein.
Je vous en prie. En fait, parce qu'on parle souvent de l'écologie punitive, mais en vérité, ce qui est punitif, c'est l'inaction. Et justement, ce rapport montre que le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que le coût de l'action. Et donc, du coup, je pense qu'il faudra changer de narratif et arrêter de dire que l'écologie pourrait être punitive. Ce qui est punitif, les premiers qui vont payer les pots cassés, qui ont déjà payé ce sont les gens qui habitent, par exemple, au bord de la mer, c'est leur résidence principale. Ce ne sont pas les gens qui ont comme résidence secondaire ou troisième résidence une maison à Saint-Tropez. Ce sont les gens qui n'ont rien d'autre, qui ont mis toutes leurs économies dans une maison qui se trouve, ben, elle va être absorbée par les eaux. Et on a vu ça quand il y a eu les différentes tempêtes, etc. Et ça c'est punitif. Et ceux qui payent, ce sont, même dans nos pays, ceux qui payent, ce sont les plus pauvres. Ceux qui ont déjà payé et ceux qui vont payer en priorité, ce sont les plus pauvres.
Et ça, ce sont les moins responsables.
Voilà, les moins responsables parce que leurs émissions...
Ce que dit le GIEC, c'est que les 10% des ménages les plus aisés du monde sont responsables de 35 à 45% des émissions de gaz à effet de serre.
Alors que les ménages les plus pauvres, qui se trouvent, bon, quand on prend la totalité de la planète, les ménages les plus pauvres se trouvent bien sûr en Afrique, dans les pays en développement, leurs émissions, leur contribution historique a été très faible et leur contribution actuelle est très très faible. Mais ce sont eux qui payent. Mais en dehors, restons dans la logique franco-française, et on regarde en France, qui paye en premier, ce sont les gens qui n'ont pas d'autre choix. Si vous avez mis toutes vos économies dans une maison qui se trouve pas loin de la mer ou alors d'un fleuve qui va déborder et qu'elle va être absorbée. Ce qui s'est passé à Liège, par exemple, ce ne sont pas les gens riches qui ont payé, ce sont les citoyens ordinaires, en fait. Et ça, c'est le prix de l'inaction. Donc c'est ça, la punition, c'est ça, c'est l'inaction qui est punitive.
Alors l'absence dans les médias de débat ou d'un nombre assez conséquent de questions sur la crise climatique peut être justifiée de différentes manières. En tout cas, la présentatrice de RMC, Apolline de Malherbe, a une idée, un avis sur la question.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions de confiance ce matin, à moins d'une semaine du premier tour des élections présidentielles. Vous êtes le candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, écologiste, de gauche, pro-européen. Et ce paradoxe, on n'a jamais autant parlé d'écologie en France, de réchauffement climatique, de menaces énergétiques, de gaz, de pétrole. On n'a jamais autant parlé d'écologie, et pour autant, eh bien, dans toutes les études, vous plafonnez, vous êtes donné autour de 6% des intentions de vote en 6e position. Alors, on va prendre le temps de comprendre vos priorités, mais je voudrais qu'on commence par la guerre en Ukraine.
Vous avez commencé l'entretien en disant on n'a jamais parlé autant d'écologie. Pardonnez-moi.
Vous êtes d'accord?
Les sondages les enquêtes qui sont faites sur le débat médiatique et le débat politique, le climat, c'est 3% du débat médiatique. Donc, on ne peut pas dire qu'on a parlé du climat dans cette
campagne. Dans les préoccupations des Français, ça arrive en sixième position.
Je suis parfaitement d'accord. Dans les préoccupations des Français.
Mais pourquoi ? Ouais. Alors, comment est-ce que la justification d'Apolline de Malherbe, vous la trouvez justifiée ? Et c'est vrai que quand on regarde les sondages sur les priorités des Français, on a en premier, dans les premiers en tout cas, j'ai plus l'ordre exact, mais on a plutôt l'emploi, on a plutôt les prestations sociales, on a ce genre de choses, le pouvoir d'achat, surtout pendant cette présidentielle. Alors là,
mais tout ça est lié. En fait, de toute façon, c'est un peu le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que si les médias passent leur temps à dire le problème n'est pas l'urgence écologique, mais c'est la sécurité, c'est l'immigration, etc., au bout d'un moment, les Français finissent par y croire. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité des médias là-dedans. Mais en réalité, quand on regarde les études d'opinion, il y a une étude qui s'appelle Fracture française qui a été faite en septembre 2021 qui montre que 82% des Français appellent à des mesures fortes face à l'urgence écologique et qu'ils sont prêts à faire des efforts pour ça à condition qu'ils soient bien répartis. Et c'est tout l'enjeu dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle de faire face à l'urgence écologique, on ne peut pas le faire sans justice sociale. Et c'est ce que dit le volet 2 du 6e rapport du GIEC. C'est qu'il va falloir prendre en compte les discriminations, les inégalités, l'injustice sociale, si on veut s'en sortir. Et le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne lit pas du tout tous ces sujets. Donc on va dire, on ne parle pas d'écologie. Mais en fait, quand on parle d'emploi, on parle d'écologie, parce que la plupart des rapports prospectifs montrent que si on fait face à l'urgence écologique, ça va créer de l'emploi. Quand on parle d'économie, on parle d'écologie, puisque le coût de l'inaction est bien plus fort que celui de l'action, etc., etc. Donc c'est aux journalistes de faire les liens entre ces sujets, en fait.
Mais vous, Paloma Moritz, quand vous faites, par exemple, vos entretiens sur Blast, ces entretiens qui durent une heure à peu près ?
Ça dépend, entre une demi-heure et 45 minutes ou une heure.
J'ai l'impression
une heure. Non. Après, je fais aussi des vidéos de décryptage courtes. Hein. J'alterne entre les deux, mais je pense que c'est des questions complexes et que parfois, il faut aussi leur laisser le temps.
Là, on se dit, est-ce que. Moi, je me dis que c'est peut-être que. Alors, soit Apolline de Malherbe n'est pas capable de faire ces liens-là, mais est-ce que ce n'est pas compliqué où vous avez un candidat à la présidentielle pendant 20 minutes devant vous a dû lui poser des questions sur tous ces liens, sur le côté très très complexe de la question écologique. Est-ce que ça aurait sa place dans une matinale ? Est-ce que ça marcherait ?
Mais absolument. Enfin, en fait, je vois absolument pas comment c'est.
Vous avez déjà interrogé de cette façon-là, Cécile Duflot ? Enfin, est-ce que vous avez déjà eu une vraie question intéressante, qui vous a amené à avoir
une. Oui, il y a eu des questions intéressantes au moment de la taxe carbone, au moment des gilets jaunes. Moi, je me souviens très bien parce que j'étais déjà à la tête d'Oxfam, mais j'étais invitée en disant, en fait, on va simplifier, il y a les gilets jaunes qui sont contre l'écologie, puis de l'autre côté, les écologistes. Donc, invitons les écologistes pour faire les contre-gilets jaunes. Et donc, d'abord, c'était une erreur de penser qu'on allait être contre les gilets jaunes. Et ensuite, du coup, ça a donné lieu à creuser le débat et à montrer d'ailleurs que la taxe carbone, aujourd'hui, elle pèse 4 fois plus sur les plus pauvres que sur les plus riches en proportion de leurs revenus. C'est-à-dire que justement, de montrer que ce seul outil fiscal de mesurer l'écologie à la taxe carbone, c'était se tromper. Si on ne prenait pas en compte les questions de justice sociale, c'était un problème. Ensuite, Yannick Jadot, il est dans une espèce de fenêtre que moi j'ai vécu pendant très longtemps, à une époque où les écologistes faisaient encore moins bon score, en disant « Ah, mais vous dites que l'écologie c'est important, mais vous faites 2%. Hein, » Voilà. Et ben donc, mais quand on y réfléchit, c'est un peu absurde. On pourrait juste dire que peut-être c'est les candidats, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette campagne, si je suis honnête en tant que directrice générale d'Oxfam France, c'est qu'il y a deux candidats qui sont très bien notés par l'ensemble des ONG qui ont travaillé sur le sujet, le réseau Action Climat, l'affaire du siècle, les shifters qui ont analysé le programme des candidats, et que le programme de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon, en général, sont mis à égalité. Mais donc, si on additionne, si je fais même l'analyse de Apolline de Malherbe, je n'ai pas les derniers sondages, mais de tête, on doit arriver à plus de 25%. Ça veut dire qu'il y a plus de 25% des électeurs, même si on ne prend que les sondages, qui se projettent dans un projet de société nourri par l'écologie. Parce que même si ce n'était pas son chemin initial, le programme de Jean-Luc Mélenchon a beaucoup, beaucoup évolué. Donc, et je juge pas là et je dis rien de particulier d'autre, mais je dis que c'est une erreur d'avoir cette lecture-là, y compris de cette manière, parce qu'on voit que certains candidats ont bougé. Et je le disais, même Valérie Pécresse ne tient pas le discours que tenait un candidat de droite classique il y a 10 ans.
Juste un point sur la remarque de la journaliste. Moi, j'aime bien un slogan qui vient des jeunes et qui disent « il n'y a pas d'emploi ». dans une planète morte. Enfin, il n'y a rien du tout sur une planète morte. Et je pense qu'il faut sortir de cette idée de mettre l'écologie dans une case qui est parallèle aux autres cases. L'écologie, elle doit venir au-dessus de toutes les cases. Et donc, si on réfléchit le monde, si on réfléchit la politique différemment, au lieu de mettre l'écologie en parallèle, d'ailleurs, en tant que citoyenne, je pense qu'avoir un ministère à l'écologie est une erreur. Enfin, vous avez été ministre, donc vous savez mieux que moi. Donc, c'est très difficile parce que vous retrouvez à vous battre. Parce que pour moi, l'écologie, c'est la vie. Et donc, il y a la vie contre les autres. Ben, tous les autres, ils ont plutôt intérêt à faire continuer le système actuel, qui est en vérité un système contre la vie. Et du coup, le ministère de l'écologie se retrouve complètement isolé. Donc moi, je trouve complètement absurde aujourd'hui que nous ayons un ministère de l'écologie. Je pense qu'il faudrait que ça soit au niveau du Premier ministère et au niveau de la présidence. Et là, ça va descendre ailleurs. Et c'est le seul moyen, parce que ça doit infuser dans tous les secteurs. Et sinon, on n'y arrivera jamais. Après, il y a juste un autre point sur...
Le vice-premier ministre du temps long aussi, enfin, c'est des propositions dans ces...
Ça, c'est pas vrai. Je suis pardon, mais alors là, c'est un truc d'écolo. Et quand je dis ça, je le dis pour le coup négativement. Si le projet de transformation écologique n'est pas à l'agenda du Premier ministre ou de la Première ministre ou de la Présidente de la République, ça ne marche pas. C'est-à-dire que s'il y a un vice-premier ministre ou
évidemment que oui, ça doit être à l'agenda du Premier ministre.
Vous avez mille fois raison. Si le ministre de l'écologie ou la ministre de l'écologie, c'est une sorte de lobbyiste interne qui est minoritaire et qui se fait taper dessus par tout le monde et qui doit essayer d'obtenir ses petits arbitrages, on l'a vu.
C'est un peu le récit de vos années passées au ministère.
Il se trouve que moi, j'étais ministre du logement et de l'égalité des territoires.
Vrai,
voilà. Mais j'ai vu de près ce qui se passait et c'est aussi la raison de mon départ. C'est-à-dire que moi, j'ai quitté le gouvernement en disant qu'en fait, je savais que le choix qui avait été fait du Premier ministre, le choix de Manuel Valls, c'était pas du tout un choix qui allait engager l'action gouvernementale vers la transition écologique parce que c'est pas ses convictions et qu'à partir du moment où c'est pas à ce niveau-là, quel que soit les talents, l'énergie, la notoriété du ou de la ministre de l'écologie, il est condamné à obtenir des micros avancées de temps en temps. Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir conscience que la machine gouvernementale, elle est vraiment très, très resserrée autour de la tête de l'État. Et si vous n'avez pas cette conviction-là qui est partagée à la tête de l'État, c'est no way.
Si je laisse tomber ma casquette de citoyenne, c'est parce que ça, je l'ai dit en tant que citoyenne, en tant qu'autrice du SGIEC, je ne suis pas autorisée à dire ce que j'ai dit auparavant, mais en tant qu'autrice du SGIEC, l'une des barrières à la transformation nécessaire pour la lutte contre le changement climatique et justement la gouvernance et se pose justement alors non seulement la gouvernance, les différents échelons, mais aussi au niveau de chaque échelon la place qu'occupe justement la lutte contre les changements climatiques et partout dans le monde en général c'est un truc parallèle et donc du coup il faut se battre. Alors du coup moi je comprends quand j'entends des ministres je suis frustrée en tant que citoyenne et je suis hors de moi en tant qu'experte quand j'entends des ministres qui sont de l'écologie qui sont contents d'avoir réussi à obtenir un petit truc. Mais la politique des petits pas, ça aurait dû être fini il y a longtemps. Et le rapport montre qu'il faudrait que les émissions commencent à baisser. Pour qu'on soit dans les clous par rapport à l'accord de Paris entre le 1,5 et le 2 degrés, il faudrait que les émissions commencent à baisser en 2025. On sait que mettre en place les politiques, ça prend du temps. Ça veut dire que... On est déjà en retard, mais ça veut dire que si le prochain quinquennat, il n'y a pas cette prise de conscience, on ne met pas l'écologie au-dessus, c'est transversal. Vous reprenez le temple grec, là, c'est le toit là, qui doit être au-dessus, ou alors l'Assemblée nationale, ça doit être le toit. Et si on n'a pas ça, il ne faut pas trop se mentir, on ne va pas baisser nos émissions.
S'il faut rebondir rapidement, dans le contexte des présidentielles, on a quand même le Haut Conseil pour le climat qui a été créé par Emmanuel Macron d'ailleurs, qui dit qu'il faut doubler notre rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Personne n'en parle. Et il y a eu la fameuse loi climat qui était censée aussi répondre à nos objectifs climatiques, qui a été complètement détricotée. Moi, j'avais fait un reportage là-dessus pour Blast, par les lobbies et par le gouvernement. Mais là, récemment, Mediapart a sorti un article très intéressant qui montre en fait comment le ministère de l'écologie a perdu tous ses arbitrages sur cette loi climat et s'est retrouvé bloqué par tous les autres ministères et donc finalement on se retrouve avec une loi qui est une sorte de coquille vide et qui ne va pas réellement avoir d'impact et qui a été totalement vidée de sa substance et notamment aussi de toute la dimension de justice sociale dont on parlait plus tôt qui est extrêmement importante.
Non mais cette loi-là, elle n'est pas alignée avec l'accord de Paris, elle n'est pas alignée avec les objectifs climatiques de l'Union européenne qui sont eux-mêmes pas alignés avec l'accord de Paris, donc on est doublement pas alignés avec l'accord de Paris.
Surtout qu'on devrait être à moins 55% et à la fin de l'article il y a une phrase assez forte où ils disent mais on n'est pas...
À moins 55% d'émissions de de Xavier Tarin.
Oui, on devrait arriver. En fait, si on s'aligne sur les objectifs européens, on devrait s'aligner sur moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Bon, désolé, c'est un peu technique. Et en fait, à la fin de l'article, ils disent, mais vous vous rendez compte qu'on n'est pas dans les clous, là, pour moins 40%, alors qu'on devrait être à moins 55%. Et il y a un des conseillers qui répond, moi, c'est une phrase qui m'a marqué, qui dit, moins 55%, c'est un autre monde. Mais en fait, ce monde-là, il faut commencer à le préparer tout de suite.
Alors, juste un point par rapport au moins 55%. Il faut rappeler que le député européen écologiste, les députés verts, n'ont pas voté cette loi européenne, le moins 55%, parce que le moins 55% n'est pas aligné avec l'accord de Paris. Et eux, ils demandaient moins 65% qui serait plus proche, qui nous rapprocherait plus de l'accord de Paris. Donc, vous voyez, on est très loin en France de ce qu'on devrait faire.
Il y a à la télévision suisse une scientifique du GIEC qui a une parole qui, tout à fait, qui fait un peu écho à ce que vous venez de dire, Madame Saeb. Donc on est sur la RTS et c'était il y a quelques jours.
Ça va coûter très cher.
Non, justement non. Pas.
2 à 4 fois plus d'investissements en Europe.
Alors, il faut les investissements, mais les investissements, on les a. C'est qu'actuellement, nous sommes en train de livrer des sommes, des subsides en fait, aux énergies fossiles et des sommes qu'on pourrait détourner. En fait, nous sommes en train de payer les factures de guerre, par exemple, de la Russie à cause du gaz. Et nous pourrions détourner ces fonds et les utiliser chez nous, dans de l'emploi local, dans un investissement qui nous permettrait de vivre bien pendant les décennies et les siècles qui viennent.
Ça va marcher ?
Probablement pas, mais moi je dois faire mon travail et je demande aux autres de le faire.
Vous dites que ça ne va pas marcher, vous n'y croyez pas?
Moi je vous parle de possibilité, je ne parle pas de probabilité.
Bon, vous devez quand même montrer optimiste, sinon on ne suit pas.
Non, pas du tout, moi je veux montrer réaliste. Les possibilités existent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles vont être adoptées. Donc là, on demande aux citoyens, nous implorons tout le monde qui nous écoute de vraiment de prendre ce message à cœur et de faire partie des personnes qui vont agir pour ce changement. Autrement, on n'y arrivera jamais.
Merci beaucoup, Julia Steinberger. Merci.
Paloma Moritz, vous la trouvez comment, la question de votre confrère de la TV Suisse?
Ça montre en fait à quel point justement les journalistes ne sont pas formés sur ces questions. Quand on regarde en fait l'extrait un peu plus tôt, il dit « ça va coûter cher ». Et juste après, de dire en fait à une autrice du GIEC « vous devez vous montrer optimiste, sinon on ne suit pas ». Et elle a tout à fait raison de dire, en fait, moi, je n'ai pas à me montrer optimiste, je dois me montrer réaliste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on reproche beaucoup, on peut reprocher aux scientifiques ou aux personnes qui alertent sur l'urgence écologique en disant « oui, mais c'est anxiogène ce que vous dites ». Mais aujourd'hui, il faut aussi qu'on fasse cet exercice de lucidité et que justement, on montre qu'on a tout à gagner à faire cette transition et à agir. Et c'est exactement ce que dit Julia Steinberger, c'est que, en fait, les financements sont là, l'argent, on l'a, il suffit juste de le rediriger vers un autre endroit. Il y a une phrase très forte d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, quand le rapport, le troisième volet du sixième rapport est sorti, il a accusé notamment tous les pays et les grandes entreprises les plus polluantes de mettre de l'huile sur le feu et de détourner le regard, mais il a aussi dit que les activistes climat sont dépeints comme des dangereux radicaux, alors que les dangereux radicaux sont les pays qui continuent aujourd'hui à augmenter leur production d'énergie fossile et à investir dans les énergies fossiles. Et c'est ça dont on parle. On parlait plutôt des lobbies pétroliers. C'est aussi ça le principal problème aujourd'hui. Et il faut en parler sur les plateaux télé et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à regarder en entier cet extrait de Julia Steinberger parce qu'il est très très fort.
Yemine Essem, j'ai deux questions. Ma première, c'est comment vous réagissez, comment vous avez trouvé le discours de votre consoeur?
Je l'ai trouvé, en anglais on dirait right to the point, je ne sais pas comment on traduit ça en français.
Droit au but.
Droit au but. Julia est l'une des autrices du rapport, mais en dehors de ça, c'est l'une des scientifiques les plus réalistes, en fait, les plus visionnaires et les plus réalistes dans les travaux qu'on fait, les travaux de recherche qu'on fait. J'ai eu l'opportunité de travailler avec elle et c'est juste un honneur de la connaître et d'interagir avec elle parce que c'est d'une lucidité. On a beaucoup travaillé ensemble sur la question de la sobriété et la définition qu'on a dans le rapport résulte des travaux que j'ai fait avec Julia en fait et c'est d'une lucidité incroyable. Elle reste lucide malgré toutes les connaissances qu'elle a ou peut-être grâce aux connaissances qu'elle a. Moi je pense qu'on devrait essayer de cloner Julia si c'était possible.
Et ma deuxième question, c'est est-ce que j'ai, en préparant l'émission, je suis rentré en contact avec une autre autrice du GIEC qui n'a pas voulu répondre à mes questions parce qu'elle m'a dit j'ai un devoir de neutralité en tant que scientifique du GIEC. Est-ce que c'est quoi le son de cloche qui domine au sein du GIEC? Est-ce que c'est de dire on prend pas, nous, scientifiques, on ne prend pas position. Si on y va, est-ce que au sein du GIEC, est-ce que pareil, on gère la communication? C'est quoi les débats, peut-être les positions à l'intérieur du GIEC?
Alors, les scientifiques du GIEC font partie de nos sociétés, donc il y a de tout. Il y en a qui travaillent sur la sobriété et d'autres qui travaillent sur les émissions négatives. Bien sûr, en tant que scientifique, on nous rappelle tout le temps qu'il faut rester neutre, il ne faut pas intervenir dans le débat politique. Le rapport du GIEC n'est pas un rapport lié à la politique française directement. On doit faire abstraction de ce que nous sommes. Mais moi, je pense que la neutralité n'existe pas. Nous sommes des êtres humains. Moi, je pense qu'une personne neutre, c'est une machine, c'est pas un être humain. Et un scientifique neutre, ce n'est pas possible. Un scientifique, la différence pour moi entre un scientifique et un non-scientifique, c'est qu'un scientifique a les outils nécessaires pour analyser tout type de situation, dans son domaine d'expertise, bien sûr. Mais ça ne fait pas de nous des machines. Enfin, ça ne doit pas faire de nous des machines. Donc moi, j'entends ce discours-là.
Sur la question de l'idéologie, c'est intéressant parce qu'on a eu une petite séquence médiatique il y a quelques temps en France avec avec Christian Girondeau, qui est un des nouveaux chantres un peu du climato-scepticisme en France. Là, on le voit à l'oie, il était passé chez CNews. Il y a dans Valeurs Actuelles, il y a le chroniqueur William Godnadel qui a écrit aussi un article pour critiquer le GIEC, en justement pointant du doigt le fait que le GIEC servait une idéologie, une idéologie climatique qui aller contre la croissance, contre le développement, etc. Comment vous gérez ça encore, le fait d'être face au climato-scepticisme, quoi ?
Alors, dans le groupe du GIEC, c'est un groupe de scientifiques. Donc, du coup, le débat se fait article par article. On a pratiquement tout fait sur Zoom.
Quand vous vous retrouvez dans les médias, du coup. Quand vous vous retrouvez dans les médias.
Ça m'est pas encore arrivé. Donc, je ne sais pas comment je vais le gérer. Donc, voilà. Je ne sais pas encore comment je vais le gérer. Mais après, quand j'entends le discours climato-sceptique, et je me dis, mais ils sont sur quelle planète, ces gens ? Enfin, c'est juste...
Moi, je l'ai beaucoup fait, je ne le fais plus, je refuse. J'ai été invitée encore récemment. Par ailleurs, j'ai parlé...
Par qui vous avez été invitée ?
Je crois que j'avais été invitée par M6, et je dis, genre, je ne fais plus un débat sur est-ce que le dérèglement climatique existe. Mais ce monsieur-là, et les autres, j'ai parlé avec des éditeurs, et j'ai compris, j'ai dit, bah, franchement, pourquoi vous... Et ils m'ont dit, ça se vend hyper bien.
Mais bien sûr.
Ça se vend hyper bien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui font ça pour exister médiatiquement et pour vendre des bouquins. Vous avez dit un nouveau, je me suis dit, tiens, il y a un jeune, d'où ça sort ? Il n'est pas jeune
du tout. Non, je voulais dire...
Ce qui est quand même dingue, c'est que ce monsieur est haut fonctionnaire et ancien spécialiste de la sécurité routière. Donc, à quel moment on parle aussi de formation sur ces questions-là. Ouais. Donc, qui est-il pour dire que le GIEC fait des mensonges et de ça ? Il est régulièrement invité sur CNews. Valérie Masson-Delmotte, qui est membre, présidente du GIEC, du groupe 1 du GIEC, elle a fait plusieurs signalements au CSA. Et en fait, je pense que tous les citoyens, les citoyennes devraient le faire. Moi, je suis alarmée aussi, même sous mes vidéos. J'ai fait plusieurs vidéos de décryptage sur les rapports du GIEC, sur comment fonctionnait le GIEC, justement, pour débunker un peu toutes ces idées, expliquer que le GIEC était indépendant, comment se prenaient les décisions, le fait que la plupart des auteurs, autrices étaient bénévoles et pourtant... tous les auteurs et autrices étaient bénévoles et que du coup, ça représente aussi un travail mais absolument gigantesque, etc., etc. Et très souvent, sous mes vidéos, je vois des commentaires sur YouTube de gens qui disent « Ah non, mais le GIEC, c'est idéologique, c'est des lobbies, etc., etc. Et » et donc, il faut passer beaucoup, beaucoup de temps à essayer d'expliquer que ce n'est pas le cas, parce qu'on sort aussi de 50 ans où on a quand même pendant un moment énormément remis en question la parole.
Excusez-moi, Madame Lufaux, il y a pas longtemps, il y a Jean-Marc Jancovici qui était à l'antenne et qui disait qu'en gros il y avait encore des gens qui croyaient que la Terre était plate. Est-ce que les climato-sceptiques, est-ce que vous pourriez dire que ce sont exactement comme les gens qui disent que la Terre est plate ?
Ceux qui sont sincères peut-être, oui, mais on peut dire aussi que la gravité n'existe pas. Et qu'on tient assis sur nos chaises parce que, en fait, Dieu a décidé qu'on reste assis. Enfin, je veux dire, on peut dire... Et d'ailleurs, on peut donner la parole à des gens qui disent n'importe quoi, mais tout vaut pas tout. Oui, la science, ça existe et ça ouvre un univers d'analyse qui objective un certain nombre de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de ces personnes, historiquement, là, ça a été très bien démontré, notamment dans l'excellent livre « Père de la Terre », ont été financées par des gens qui ont des intérêts. Moi, je suis pas naïve. C'est-à-dire que, oui, il y a des entreprises, il y a des organisations qui ont beaucoup à perdre si on met en place une vraie politique de sobriété. Oui, c'est vrai que les grandes entreprises pétrolières, si on dit on laisse les fossiles dans le sol, eh ben, elles peuvent stresser un peu. Moi, je suis convaincue que les entreprises peuvent évoluer, que dans l'histoire, Shell, c'était une entreprise de coquillages.
C'était ma question.
Oui,
on a Julia Steinberger, qui implore dans le passage. Mais est-ce que les gens à qui elle s'adresse, ils les écoutent vraiment?
Alors, je pense qu'il y a des gens qui écoutent. Je crois qu'il y a quelques petits. On va dire maintenant les zinzins ou dans le déni total qui croient ce qu'ils disent. Il y a toute une frange totalement cynique qui font ça parce que ça leur donne de la notoriété, que ça leur file de l'argent ou parce qu'ils sont financés. Et voilà, c'est cette deuxième catégorie. Ensuite, il y a tout un tas de gens un peu embarrassés. Moi, je parle avec beaucoup de responsables politiques, avec beaucoup de chefs d'entreprise pour dire que tout ça, c'est réel, pour dire que ça fait 20 ans que moi, autrefois en tant que femme politique, je lis les rapports du GIEC, que la réalité, c'est que c'est plutôt les scénarios les plus pessimistes qui se sont réalisés. Et quand on lit là ce qui est écrit, même moi qui suis plutôt stable, etc., j'ai pas du tout envie que ça arrive. Donc, il faut aussi qu'on réussisse à élargir le spectre de ceux qui sont prêts à agir. Mais c'est sûr qu'il faut un cadre contraignant. Et que ce cadre contraignant, il peut être aussi émancipateur. C'est-à-dire que, oui, un modèle qui est un modèle sobre en énergie, un modèle qui ne distribue pas des bénéfices n'importe comment, et un modèle économique qui peut fonctionner. Enfin, que ce n'est pas un horizon impossible, c'est un horizon qui change.
– Politiquement, comment est-ce qu'on valorise? Parce que du coup, dans les éléments de langage que vous utilisez, il y a un écho, ne serait-ce que de loin, à ce que disent les candidats d'extrême droite sur le côté punitif, etc.
– Comment est-ce que… – Mais ce n'est pas punitif. Enfin, moi, je sais ce qui est punitif. Par exemple, je suis d'accord sur le fait que peut-être qu'il faudrait remercier les gens. C'est-à-dire que quand on prend les transports en commun, en fait, on est très utile. Et en général, on est regardé, alors il y a le regard social, on peut être regardé de façon à, il y en a qui ont une voiture et une grosse voiture, en fait, il y a des choses qui ne doivent plus exister. Et d'ailleurs, c'était la conclusion de la Convention citoyenne sur le climat. Il ne faut pas savoir que les gens achètent ou n'achètent pas un gros SUV pour voyager tout seul à 25 km/h dans Paris. Ça ne s'achète pas. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire vos courses, vous n'achetez pas de la nourriture dans laquelle il y a du poison. Vous savez que avec ce qui s'est passé avec Butoni, c'est plus compliqué, mais que vous achetez la nourriture, il n'y aura pas de poison dedans, que vous n'allez pas vous intoxiquer. Quand vous achetez des jeux pour vos enfants, pour les tout-petits, il n'y a pas de petits morceaux qui peuvent se détacher et qui peuvent avaler. Voilà, il faut qu'on se dise, sur la production du reste, ça doit être la même chose. On ne doit pas avoir du plastique jetable qui nous empoisonne, parce que ça nous empoisonne. Et donc, en fait, il faut passer à cette logique-là, qui n'est pas une logique du tout, au contraire, parce que ce qui va être très punitif, ce qui va être très, très dur, c'est quand il y aura des méga-feux, c'est quand une partie des gens vont perdre l'endroit où ils vivent, c'est une nouvelle pandémie. Ce qui arrive déjà, c'est une nouvelle pandémie, c'est la famine au Sahel, c'est ça la réalité. Et donc moi, je suis au contraire extrêmement positive. Je suis dans une logique où il faut faire des trucs et changer nos politiques publiques pour que ça aille mieux et que ce soit plus confortable à vivre pour tous.
Pour finir cette émission,
c'est vraiment la question, c'est la punition et pour qui? Le dernier rapport du GIEC explique que justement, les impacts du dérèglement climatique sont beaucoup plus fort sur les populations précarisées et en réalité, en fait, on voit aujourd'hui en France que selon le laboratoire sur les inégalités, il y a à peu près la moitié des Français les plus précaires qui émettent déjà 5 tonnes de CO2 par an par habitant, donc c'est-à-dire le niveau auquel on devrait être en 2030. Donc en fait, il y a déjà des Français qui remplissent leur part du contrat et quand on parle des leviers à actionner, eh bien ça doit être accompagné par des politiques publiques transversales qui vont prendre ça en compte, qui vont développer les transports en commun, etc., etc., parce qu'on voit bien en fait qu'aujourd'hui, plus on est riche, plus on pollue, et que ce sont les personnes justement les plus riches dans les pays qui émettent le plus, et à l'échelle du monde, ce sont les pays industrialisés. Il y a 20% des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Enfin, il faut quand même aussi se remettre un peu ça en tête.
Pour terminer l'émission, j'ai une toute dernière séquence à vous montrer, parce que tous ces débats liés avec le rapport du GIEC, notamment dans le rapport du GIEC, on appelle à une baisse de la demande, on pointe du doigt aussi donc, le fait, comme vous venez de le redire, Paloma, que ce sont les riches qui polluent le plus. Alors comment, dans un monde régi par la propriété lucrative, la croissance et l'hyperconsommation, peut-on sauver la planète de la catastrophe? Le philosophe et économiste Frédéric Lordon a un avis sur la question, c'était fin 2021. Il était l'invité de Frédéric Taddeï sur la chaîne qui n'existe plus, Russia Today.
Écoutez, je vais vous dire, moi j'ai fait, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un vœu qui est le vœu de radoter. Je vous prie de m'en excuser. Donc je vais dire des choses que j'ai dites avant, je vais les dire ici et je les dirai plus tard. J'annonce la couleur. Il faut radoter parce que les déplacements dans les esprits se font à force de répétition. Donc voilà, moi mon radotage, il prend la forme d'un syllogisme qui procède en quatre énoncés. Premier énoncé, il y a un écocide. Bon, ça, je pense que maintenant, c'est une idée qui commence à avoir suffisamment gagné de terrain dans la société. Deuxième énoncé, l'écocide est capitaliste. Donc, il faut qu'on arrête de nous bassiner avec l'anthropocène. La cause de l'écocide, ça n'est pas l'homme avec un grand H, c'est le capitalisme et les hommes du capitalisme. Troisième énoncé, il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste. Alors, j'insiste particulièrement sur ce troisième énoncé, parce que c'est, si vous voulez, il y a là un thème avec lequel on s'apprête à nous promener pendant au minimum une, si ce n'est pas deux décennies et peut-être davantage, parce que le capital cherche à gagner du temps. Alors, premier énoncé, il y a un écocide. Deuxième, il est capitaliste. Troisième, il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste. Ergo, conclusion, si on veut mettre un terme au cours du désastre de la planète qui part en morceaux, il faut sortir du capitalisme.
Ibn Assem, je vous ai vu hocher la tête.
Oui, je pense que c'est Einstein qui avait dit, je ne sais plus qui l'avait dit, on ne peut pas résoudre un problème avec ce qui a créé le problème. Et la réalité, c'est que c'est le libéralisme et le capitalisme, et surtout le libéralisme sauvage, qui ont conduit à la situation actuelle. Donc il faut arrêter de se mentir, on ne va pas résoudre la crise climatique, qui est une crise mondiale, avec les outils qui ont créé cette crise-là. Donc ça, c'est un gros mensonge, il faut arrêter de faire ça.
Et dans le résumé pour les décideurs du GIEC, il n'y a pas une seule fois le mot capitalisme. Tout est écrit en filigrane pour dire qu'il faut changer de système, qu'il faut changer de façon de procéder, etc., etc. Mais jamais ce n'est écrit. Est-ce qu'il y a, parmi les scientifiques du GIEC, est-ce que là-dessus il y a des discussions? Est-ce qu'il y a des vrais anticapitalistes dedans? Est-ce qu'il y a encore des gens qui se disent non, mais peut-être qu'en convainquant Shell, peut-être qu'ils vont arrêter
d'utiliser. Le rapport du GIEC, c'est un résumé de ce qui est déjà de la science, des articles déjà publiés. Il se trouve que.
Mais dans les propositions, dans le troisième volet, c'est les propositions pour le coup.
Non, le GIEC ne fait pas de recommandations au gouvernement. Il fait un résumé de l'état de la science, de ce que dit la science. Donc, si ce qui a été publié jusqu'au moment, parce qu'on avait une cut-off date, jusqu'au moment où, au moment de notre deadline, a été pris en compte. J'ai pas cherché s'il y avait le mot capitaliste ou pas, je dois vous l'avouer, mais il y a de plus en plus de publications scientifiques, justement, qui remettent en question, qui sont claires sur le sujet, qui disent qu'on ne pourra pas résoudre la crise écologique avec les outils qui l'ont créée. Et c'est juste une réalité, c'est la course au profit qui a créé la crise dans laquelle nous sommes.
Lucie Duflot, il vous évoque quoi? En plus, il parle de radotage, Frédéric Lornon, et vous êtes d'accord aussi qu'il faut encore radoter?
Qu'il faille répéter, oui. Je suis mal à l'aise de voir RT au moment où on sait ce qui se passe en Ukraine, pardon. Mais surtout, je tiens à dire
j'aurais aimé ne pas mettre. Moi, je n'ai pas spécifiquement d'avis là-dessus, mais par ailleurs, Frédéric Lornon, par exemple, il est quand même rarement invité dans des télégrandes.
Ce que je veux dire, c'est que le XXe siècle, il a vu la mise en œuvre de l'idéologie communiste et qui s'est traduit par un productiviste tout aussi productiviste que le productiviste capitaliste. Donc, pour moi, l'enjeu est moins un débat théorique, même si je suis venue à l'écologie par André Gors, qui a très bien écrit sur la logique capitalistique et son anti-écologisme structurel. Mais pour moi, la question, c'est celle de l'urgence et de ce qu'on met en place. Et ce qu'on met en place, c'est des politiques de régulation, et donc de régulation du système. Donc, des politiques où la puissance publique, effectivement, est la décisionnaire. Donc, je ne crois pas à l'exemplarité des entreprises, je ne crois pas à la citoyenneté dans une logique où l'objectif est de maximiser les profits des actionnaires. Je crois à la régulation, je crois à la puissance publique et je crois à la décision collective et donc à la démocratie. Mais si on passe effectivement 20 ans pour reprendre le radotage à débattre de la société et le mode et le système qu'il faut mettre en œuvre, le dérèglement climatique va continuer. Donc la question pour moi essentielle, c'est celle du modèle qui est très lié à une logique de gaspillage des ressources naturelles, qui est le modèle productiviste où on a même conduit à inventer des besoins pour pouvoir produire et trouver des débouchés à la production. Et je le redis, le XXe siècle a montré que le productivisme pouvait se trouver dans plein de régimes politiques différents.
Palma Moritz.
Bah, le GIEC est quand même très clair en parlant de solutions, de mesures radicales à prendre pour préserver l'avenir de l'humanité et de transformer en profondeur tous les secteurs. Donc c'est exactement ça dont on parle. En fait, en réalité, on parle d'un changement civilisationnel. C'est une forme de révolution copernicienne à opérer. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'en prend absolument pas la voie et qu'on est plutôt en train d'aller totalement à l'inverse, c'est-à-dire en demandant par exemple aux citoyens de faire des efforts plutôt qu'aux grandes entreprises les plus polluantes qui continuent à faire des grands projets fossiles, je pense notamment à Total en Ouganda ou autre. Et donc en fait, là le GIEC nous dit il nous reste 3 ans, mais en fait en réalité il ne nous reste pas 3 ans, il nous reste 0 année, il faut agir maintenant. Et donc il faudrait qu'il y ait toutes les énergies, tous les cerveaux, tous les scientifiques qui se mettent sur le coup et qu'on y aille. Et c'est ça véritablement l'enjeu qu'il faut qu'on comprenne en France et dans le monde, je pense aujourd'hui. Et malheureusement, dans cette présidentielle, ça, on n'en a absolument pas parlé.
Ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission et à cette discussion. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt sur Image.